Dans les coulisses du voyage à Nantes en hiver, une équipe s'active depuis septembre.
C'est originaire de Nantes, la sauce au beurre blanc ?
Alors Nantes, pas tout à fait, c'est à Saint-Julien-de-Concel exactement. Échalote grise, vin blanc.
Particulièrement sur Nantes, au muscadet.
Vinaigre blanc et le fameux beurre.
Et le beurre.
Pas mal de
beurre. Voilà. Ça se marie très bien avec les poissons, on a beaucoup de poissons aussi au niveau de la Loire. Et ben voilà, c'est typique, en effet le beurre salé, tout à fait.
Nantes, c'est une ville évidemment riche en gourmandises. À côté des petits beurres, il y a le célèbre gâteau nantais.
C'est une recette emblématique, mais finalement, si on regarde la cuisine nantaise aujourd'hui, elle regarde plus vers le futur.
Je t'invite au restaurant.
Oh, j'adore ça.
Comme on est heureux de mettre le couvert à Nantes. Bonjour à toutes et tous. Merci. La salle Paul Fort, juste en face du fameux marché de Talensac, est pleine à craquer. Un grand merci, chers Nantais et Nantaises, d'être venus si nombreux. Il était temps pour nous de revenir à Nantes, ne serait-ce que pour se frotter à une réalité qui n'échappe désormais à personne. La capitale des Pays de la Loire fait feu de tout bois sur la scène gastronomique française. Et des talents, il y en a partout, qu'ils soient chefs, artisans, producteurs, ils éclosent de tous les côtés dans un formidable biotope, à la fois paysan, viticole, culinaire. C'est ce que l'on va voir ensemble, on a eu l'occasion de le vérifier ces derniers jours, et on va vous le prouver avec nos invités. Richard Bossé, bonjour.
Bonjour.
Chargé de la promotion gastronomique au voyage à Nantes, ce festival a la programmation particulièrement riche, hein, qui fait beaucoup parler de lui, qui agite la ville depuis plus de 10 ans, vous allez nous raconter ça. Alors on connaissait le voyage à Nantes au beau jour, voici désormais la saison hivernale qui a commencé je crois le 24 novembre, c'est ça ?
Tout à fait.
Et qui se poursuivra jusqu'au 1er janvier. Et cette saison est ponctuée d'événements culinaires, vous allez nous les raconter. Vous êtes aussi le fondateur de ce petit bouquin que j'ai là à mes côtés et qui a beaucoup de succès depuis maintenant plus de 10 ans, hein. C'est un livre, un guide gratuit, les tables de Nantes qu'on trouve un peu partout dans la ville et qui recense ben, évidemment tous les établissements de bouche, les restaurants qu'il y a dans cette ville. On vous a lancé un petit défi, Richard Bossé, on peut savoir lequel comme défi ?
Mon défi ?
D'apporter un petit panier gourmand.
Mais bien sûr, effectivement.
Rempli de bonnes choses.
Rempli de bonnes choses qui viennent de producteurs avec qui on travaille beaucoup à l'année. Y compris les chefs, et effectivement, je pense qu'on va avoir un beau panel de ce qui se produit à Nantes.
Et oui, il y en a partout sur le plateau. Ça va circuler aussi, évidemment, auprès de notre cher public. Sarah Mengi, bonjour.
Bonjour.
Vous faites du bruit pour Vacarme. C'est le nom du bistrot gastronomique que vous avez ouvert, chère Sarah, à Nantes. On est en plein centre-ville, vous nous en rappelez l'adresse ?
5 rue des Bons Français.
Absolument.
Ça ne s'invente pas.
Voilà, et Vacarme fait aussi du bruit sur la scène culinaire nantaise. On vous connaît aussi hein, par l'émission Top Chef, puisque vous avez quand même eu un parcours éblouissant. Dans ce concours culinaire d'M6, vous êtes arrivé finaliste de la saison 12. Vous êtes très engagé, vous allez nous raconter pourquoi, et vous allez même cuisiner en direct avec, allez, Geoff, hein, on peut le dire quand
oui.
même, qui est là et qui vous accompagne aujourd'hui, on peut l'applaudir. Pour cuisiner deux très belles recettes à l'accent nantais, sans trop divulgâcher vos recettes, il va être notamment question ben, d'un légume emblématique, mais également d'une sauce célèbre dans le monde entier, on peut le dire. Et puis justement, je parlais de végétal et de légumes emblématiques. Voici Alice Ménard. Bonjour.
Bonjour.
Ouh là là. Visiblement, ça fait du bruit pour cette jeune maraîchère installée depuis 2020 dans le pays nantais, à Saint-Julien-de-Concel. Vos trésors du potager sont juste à votre gauche. Il y a une cagette remplie de... Alors je distingue du chou-kale, il y a également du chou-fleur, des petits navets, plein de choses. Vous allez déballer vos trésors du potager. Vous allez nous raconter comment vous vous y prenez aussi et comment vous développez une vision singulière et engagée de l'agriculture.
Avec plaisir.
Eh bien écoutez, vous êtes là pour ça et on s'en réjouit. J'ai le privilège d'être accompagné pendant toute l'émission avec mes deux chroniqueurs historiques. Ils sont à mes côtés depuis le premier jour. C'est Elvira Masson et Dominique Hutin. Bonjour à tous.
Bonjour
les deux.
À tous et toutes.
Salut. Bonjour.
Elvira.
Alors Nantes est une ville riche de 1000 talents, mais c'est aussi une ville foisonnante d'engagement culinaire, solidaire et inclusif.
C'est ce que l'on va voir ça, et de quoi pourrait bien parler Dominique Hutin ?
De l'eau.
Qui coule !
J'ai porté la lumière sur la créativité insoupçonnée du vignoble nantais. Ce sera donc une chronique en odorama et en colorama.
Très bien, amis de Nantes et de France, vous pouvez retrouver nos recettes, nos bonnes adresses nantaises grâce à Richard. Nos podcasts également, tout ça c'est sur franceinter.fr à la page on va déguster. Alors de la mâche au beurre blanc, des poissons de la côte à la vache nantaise, en passant par le gâteau nantais, la vache pinoire, le gouel, on croque Nantes par tous les bouts et tous les goûts.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Sans faire offense à personne, je ne voudrais surtout pas vexer notre public nantais. La capitale des Pays de la Loire a longtemps été un peu absente sur la carte déjà bien encombrée de la gastronomie française. Et aujourd'hui, en 2022, on le constate autour de nous, dans le milieu de la gastronomie, que l'on soit à Lyon, ma ville natale, à Marseille, à Nice, tout le monde à Nantes, à la bouche. Comment la ville est passée un peu du statu quo de no man's land culinaire, sans vexer personne encore une fois, parce que il y a évidemment eu de très belles traditions culinaires, mais je parle de la représentation de l'imaginaire gastronomique où Nantes effectivement était un peu à côté, à celui désormais de destination gastronomique, les anglo-saxons disent food destination. Voilà, c'est vraiment une expression qui consacre en général une ville. Que s'est-il passé? Je voudrais entendre évidemment nos trois invités, c'est une question ouverte. On commence avec Sarah Menghi.
Je pense que déjà il y a un terroir hyper riche ici, de maraîchage, on l'a dit, des super éleveurs avec des races rustiques, la mer, l'eau douce, il y a quand même beaucoup de choses pour rendre un chef heureux. Et je pense que c'est pour ça que ça réattire aujourd'hui la jeune génération.
Il n'y a rien qui ne manque en fait dans le terroir. Il y a absolument tous les métiers de bouche, les artisanats, les productions qui sont représentés.
Oui, complètement. Complètement, jusqu'à la crèmerie, on a tout en fait à portée de main. Donc,
Et pour autant, ce réveil gastronomique, toutes ces tables qui émergent avec, on va le voir, un engagement et des convictions très fortes à la clé, ça c'est depuis seulement quelques années. Vous en faites partie puisque vous vous êtes installée il y a combien de temps, Sarah ?
5 ans, 3 ans le restaurant, ça fait 5 ans que je suis à Nantes. Ouais.
Vous-même, on va parler évidemment de votre discours, mais vous êtes originaire de région parisienne, vous oui. avez de solides racines familiales ici.
Oui.
Qu'est-ce qui a motivé votre retour au bercail ?
Je pense que beaucoup de choses... enfin, Paris, c'est très bondé.
Il y a plein de Parisiens.
Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de restaurants. Presque tout est fait. Et c'est vrai qu'à Nantes, il y a 5 ans, c'était un peu... Je dirais pas au point mort, parce que mine de rien, il y avait quand même des grands restaurants étoilés déjà bien installés. Mais c'est vrai qu'il manquait une scène un peu plus funky, quelque chose d'un peu plus cool, un peu plus bistrot, qu'on redécouvre aujourd'hui maintenant.
Et là, c'est la folie.
Ouais, complètement.
Il ne nous suffit pas d'un week-end pour constater tout ça. Moi, j'ai déjà prévu de revenir au printemps prochain. Je vous préviens, Richard, vous savez qu'on a pris date. Ouais. Parce que là, il se passe tellement de choses que même moi, j'ai vraiment peur de passer à côté. Alice Ménard, alors, on l'a dit, vous êtes une jeune maraîchère dans le pays nantais. Donnez-nous votre vision des choses, parce que vous participez activement à ce réveil agricole et une agriculture paysanne tournée notamment vers... évidemment, la protection des sols.
Vers le vivant, vers le naturel, vers du renouveau, en fait.
C'est
ça. Je pense que on se rejoint, c'est pour ça qu'on se rejoint avec Sarah et qu'on collabore assez bien ensemble. C'est qu'en fait, ça partait du constat qu'aujourd'hui, le monde agricole nantais, le monde maraîchage nantais était un peu, pareil, sans vouloir vexer personne, mais un peu empoussiéré et qu'un petit besoin peut-être de renouveau et de voir ce qui pouvait se faire autrement, différemment, et ça va de pair en fait avec la nouvelle scène gastronomique aussi qui du coup avait une demande de dire choses un peu différentes, et je pense que c'est pour ça que ça marche bien.
Et l'écologie est souvent, même quasiment toujours, dans ces restaurants qu'on aime et qui émergent au centre du jeu.
C'est ça. Donc beaucoup de chefs qui réfléchissent maintenant à faire plus de moins de quantité pour plus de qualité, donc plus de petits produits choisis avec des assiettes plus réfléchies. Et du coup, mon métier de maraîchère rentre très bien avec ça, quoi.
Et on va voir que des partenariats très forts, voire même des amitiés, se nouent entre d'un côté ceux qui cuisinent et de l'autre ceux ou celles, évidemment. Hein. On inclut les femmes et on va voir à quel point elles sont importantes dans cet écosystème, produisent. Il y a vraiment aussi cette charnière importante qui existe.
Ces liens qu'on avait un petit peu perdus en fait avec tout ce qui est grande distribution, marché de gros, et en fait aujourd'hui ce qu'on nous on a redécouvert avec Sarah puis avec mes autres et autres clientes, c'est un lien en direct où est-ce qu'on communique régulièrement dans la semaine, presque jour après jour, et en fait cet échange-là il est primordial dans nos travaux respectifs.
Nous avons à nos côtés l'homme par qui une grosse partie des choses est arrivée, sans trop le brosser dans le sens du poil. On doit quand même reconnaître qu'il y a aussi un élan gastronomique agricole grâce à une très belle impulsion publique de quelques bords politiques que l'on soit d'ailleurs. On ne peut que constater que Nantes a décidé de mettre l'alimentation, pas seulement la gastronomie, on parle pas évidemment d'un truc élitiste, on parle d'une alimentation aussi pour tous, et d'AMAP, on en parlera avec Alice Ménard, eh bien, a décidé de mettre ça sur le devant de la scène.
Oui, effectivement, ça a été une politique publique, comme on dit, qui a été intégrée dès le début du projet du voyage à Nantes, qui a été créé donc en 2011, en intégrant ce service de la promotion culinaire, en se disant qu'effectivement, Nantes travaillait sur l'attractivité, mais que la gastronomie n'avait pas la résonance qu'on pouvait attendre d'une métropole, alors qu'effectivement, on constatait qu'il y avait tout. On est à un carrefour, comme le disait Sarah, pour tout un tas de produits, tout pousse sous nos pieds. Voilà. Après, fallait accompagner cette scène, la mettre en avant, faire des connexions entre les producteurs, les chefs, les vignerons. Un vignoble aussi à redécouvrir. Voilà. Le challenge était beau il y a 10 ans. Et puis maintenant, effectivement, on constate que on est arrivé à une sacrée étape, là.
On a l'impression que le territoire était un terreau fertile où tout ne demandait qu'à germer, en fait. Et que ça s'est fait finalement en un temps assez raccourci. Alors, il y a le voyage à Nantes, évidemment, qui a considéré, parlons-en, depuis 10 ans, la cuisine comme une culture avec un grand C. C'est pas évident pour tout le monde.
Oui, tout à fait. Déjà, on avait travaillé avec Jean Blaise, donc le directeur du voyage à Nantes.
On peut saluer Jean Blaise qui a quand même fait, du coup, beaucoup de choses pour la métropole.
Voilà. Et dès 2005, quand on travaillait ensemble donc au lieu unique, on avait intégré la gastronomie et la cuisine comme une dimension, une programmation culturelle et artistique. Et puis naturellement ensuite, quand le projet du voyage à Nantes donc s'est monté, on a poursuivi ce travail en intégrant effectivement la cuisine et la gastronomie comme un élément de la culture vraiment prépondérant dans le programme du voyage à Nantes, au même titre que l'art dans l'espace public. Et effectivement, on a mené beaucoup d'actions, à commencer donc par le guide des tables de Nantes, et puis beaucoup d'événements aussi, pour mettre en scène, pour rassembler toute cette scène, et qu'à un moment donné, les choses s'articulent bien ensemble, et qu'il y a une dynamique qui porte, et qu'on peut voir aujourd'hui.
On verra tout à l'heure qu'il existe depuis cette année une édition hivernale, avec une programmation culturelle et culinaire qui vient de commencer. Ça, c'est tout à fait nouveau. Rendons à César ce qui lui appartient. Le premier chef que vous êtes allé voir, que nous, on connaît maintenant depuis le début des années 2000 et qui a permis aussi de sortir Nantes et sa région de l'ornière, c'est Éric Guérin, La Mare aux Oiseaux.
Bien sûr. Éric, c'est le premier qui... on peut le saluer. C'est à la fois le premier, effectivement, qui m'a ouvert ses portes de cette gastronomie en mouvement dans les années 2005. Et c'est aussi quelqu'un qui a formé énormément de talents qu'on retrouve à Nantes et qui participe vraiment de cette dynamique qu'on constate aujourd'hui. Ça passe forcément par ces chefs-là. Et on connaît l'engagement d'Éric et notamment sa faculté à transmettre et transmettre des belles valeurs. Donc effectivement, c'est un élément clé dans la gastronomie nantaise aujourd'hui.
Et il y a un énorme talent en devenir. Alors ça, je le dis, j'affiche un énorme coup de cœur. Merci d'ailleurs à Antoine Gerbel, notre chroniqueur vin et confrère de Dominique Hutin, qui m'a dit « Va absolument à cet endroit, tu vas voir le garçon à un avenir tout tracé. Le manoir de la Régate, on s'y est installé hier au déjeuner avec Mathieu Perroux qui travaille avec sa sœur Anne-Charlotte. On est route de Gachet à Nantes, dans une ancienne guinguette sur les bords de l'Erdre. Et là, on a eu une démonstration de force culinaire incroyable, avec des plats extrêmement maîtrisés, très précis sur les assaisonnements, les condimentations, un engagement là aussi très très fort, notamment du côté des poissons d'eau douce.
Oui, parce qu'effectivement, il a pris le parti fort, surtout à Nantes, comme le disait Sarah, on a une belle façade atlantique. Lui ne travaille que des poissons de rivière, puisqu'il est à 100 mètres de l'Erdre. Et effectivement, il s'est donné ça comme contrainte, mais comme champ aussi de travail, très beau, de travailler toute cette diversité des poissons et même des écrevisses aussi qu'on va trouver en eau douce.
On a mangé du silure, de la perche, des gambas d'eau douce. Non, c'était vraiment une incroyable expérience. Très sincèrement, le garçon a une étoile Michelin, il est promis à un très très bel avenir. Moi, je le pense et j'en ai la conviction intime. En parlant de poissons d'eau douce, Richard Bosset, allez, un premier produit, une première ressource piochée dans votre panier gourmand.
Alors, on peut commencer effectivement par le silure, qui a été pêché par Arnaud Guéret, qui est dans la salle.
Arnaud Guéret, pêcheur.
Alors c'est vrai qu'on a décidé de mettre en avant ce poisson parce que c'est un poisson invasif, qui a été un
moche,
produit,
mais bon, moche, c'est pas de sa faute.
La lotte aussi, c'est bon, pareil. Hein. Voilà, et c'est un poisson qui prend beaucoup de place dans l'écosystème de nos rivières, et plutôt que effectivement de le laisser continuer à prospérer, autant le consommer, d'autant plus que bien préparé par des chefs comme Mathieu Pérou, ou effectivement comme le travail Arnaud Guéret, là en l'occurrence fumé et confit dans de l'huile d'olive, on a un produit qui est vraiment très intéressant.
L'huile d'olive n'est pas nantaise, mais encore, malheureusement, ça ouais. pourra arriver un jour, si vous voyez ce que je veux dire. Elvira, qu'est-ce que vous pensez de ce silure?
C'est délicieux, le fumage est superbe, et puis il y a une mâche géniale. Mm. Non?
Je demandais à une mâche extraordinaire, je l'ai goûté avant l'émission, je demandais à Sarah Mengi si elle travaillait le silure.
Non. Je pense qu'il faut connaître les poissons d'eau douce. C'est vraiment une technique particulière, et pour le moment, je ne l'ai pas encore à mon arc, mais j'y travaille.
Très bien. Pour mitonner cette émission en direct, Laurent Thomas, Fabrice Rivaud, Maxime Goudard, avec le soutien de France Bleu Loire Océan, Stéphane Martin, Lucie Lusseau et Franck Payon. Dans un instant, on évoque avec notre duo féminin la salade nantaise emblématique, la mâche évidemment, hein, vous l'aurez reconnu, mais ça c'est juste qu'après Poke au Fessa de Guts avec David Walters et Brenda Navarrete. Vous êtes bien sur France Inter.
Você é um cinema. Usa a mão e mesa. Tu sabes me gostar. Angu cachuí, angu nijo al mare. Dimo essa saia essa. Usa a mi casa é tuya. Me maca santidade. Ele é o doce. Et puis d'y faire, nous savons c'est l'homme, l'amour qu'il a. Oh, menina, tu sabes me gustar. Curti o café, o seu cinema. O salmão é messa. Tu sabes me gustar.
Tiene de aquello que gusta, mi niño, yo quiero más. Cuando me mira siento cariño, yo quiero más. No lo compliques, que esto es sencillo, yo quiero más. Vamos a meternos en el amor en el bolsillo, yo quiero más.
Y caminar, solo los dos.
Sé que te asusta, a mí me gusta, pierdo el control.
En el amor, quiero seguir.
Deja que te muestre Camilo, me lo podrás permitir.
O céu cinema. O sol imensa. Tu sabes me gostar. Puxi, por quê? Puxi, puxi o café. Puxi, por quê? Puxi, tu sabes me gostar.
Puchi, tu sabes ya si se paba. Aún fue la pente en el agua.
Es que yo tengo una cosa que a ti te gusta mucho.
Niña, sáme el SM. Acá llame, llame, llame la lleva.
Dámela, dámelo, quiero más, quieres todo. A ti te conviene.
Pasa puchi, puquisa, niña, café, muen, pet, foie.
Quiero todo, quiero todo, quiero más. Puchi, puchi, pourquoi?
L'amour pas la joie, nous fait y poser. Nous savons, c'est love, c'est l'amour qui l'a. Dime, puchi.
Dime, pourquoi?
Dime, puchi.
On va déguster à Nantes en public et en direct depuis la salle Paul Fort. Nantes et son terroir au menu dont on va déguster, et venons-en à la salade star de Loire-Atlantique cultivée depuis la première moitié du 19e siècle. Je vais évidemment parler de cette mâche nantaise que dans les campagnes françaises on cueillait, qu'on surnommait parfois boursette, doucette, clairette, oreillette. Ici, elle est cultivée en abondance dans une région qui regroupe quand même 80% de la production française avec plus de 200 producteurs de mâches. Et cette salade a obtenu son indication géographique protégée. Elle fut même, je crois, Alice Ménard, un sujet de débat, voire de conflit dans votre famille.
C'est ça. Donc, à la reprise de l'exploitation familiale, après 35 ans de monoculture de mâche intensive industrielle, moi, je me suis très vite prononcée sur le fait de ne pas faire la même chose, voire faire, si possible, complètement différent. Mm-hmm. Et donc, beaucoup de débats au début, beaucoup de questionnements et d'accusations sur ces pratiques, sur ces méthodes que moi, je comprenais pas vraiment. Puis, d'avoir grandi dans ce territoire-là, maraîcher, donc entouré par les exploitations assez gigantesques de mâches en monoculture, ça me posait beaucoup de questions. Donc, on a beaucoup discuté avec mon père. On a beaucoup, beaucoup discuté.
Parce que vous êtes actuellement sur ces terres. Hein.
C'est ça.
Il vous a légué ces 4 hectares, mais votre papa Joël était évidemment entraîné.
C'est ça, lui-même fils de maraîcher. Donc, en fait, ça fait plusieurs générations dans la famille. Sauf que lui, entre guillemets, a lancé la culture de mâche en mono, alors que mon grand-père, lui, faisait à peu près ce que je fais aujourd'hui, au final, du très diversifié avec les stars, parce qu'il n'y a pas que la mâche à mes yeux, du maraîchage nantais, parce que le maraîchage nantais a quand même presque quelques centaines d'années de notoriété, et donc les légumes primeurs, un terroir qui réchauffe facilement, des sols légers qui permettent de faire à peu près tous les légumes en avance sur chaque saison, et donc un peu de tout, quoi.
Vous tournez le dos donc à cette monoculture depuis 2 ans, 3 ans maintenant dans
presque
votre exploitation,
3 ans, ouais.
C'est cela. Cela ne vous empêche pas d'ailleurs de pratiquer la mâche.
Bien sûr, bah, en fait, pas trop le choix, parce que tout simplement, par exemple, ma maman était un peu triste que mon père s'arrête, parce qu'on n'avait plus de mâche à manger à la maison, donc j'ai pas eu trop le choix, il a fallu que j'en fasse, et au début j'avais dit non, et en fait, juste par défi, on va dire, on en a semé un petit peu, et puis...
Mais alors, il ne s'agit pas de la même mâche montrée, vous en avez de la mâche à l'état brut?
Elle est derrière vous, ouais.
Elle est derrière nous, est-ce qu'on peut voir un bon bouquet de mâche?
C'est une mâche qui est complètement différente, en fait.
Racontez-nous.
C'est pas du tout les mêmes variétés, c'est une mâche qui est beaucoup plus rustique, on appelle ça mâche grosse feuille, elle va être presque 3 fois plus grosse que celle que vous pouvez trouver dans vos sachets d'habitude. Une mâche qui a plus de mâche.
Bravo.
Avec une feuille plus épaisse, presque un peu gaufrée, des saveurs plus importantes, enfin pas plus importantes, mais plus ténues, enfin notables, ouais. C'est vraiment un autre produit.
Il paraît au début de votre aventure, Sarah Mengi, que vous vous êtes même dit, ah non, on va laisser la mâche de côté. La mâche cache le reste, en fait, des productions maraîchères. Bon, quand vous avez vu ça, finalement...
On a eu envie de la travailler tout de suite. Et c'est vrai que c'était un peu le cliché de Nantes. On pense tout de suite à la mâche. Et c'est pas forcément le produit qui a le plus de goût. Je préfère manger un chou-fleur que de la mâche, à la base. Mais c'est vrai, quand on goûte la mâche d'Alice, on est vraiment sur une salade, en fait, d'hiver. C'est-à-dire de l'amertume, vraiment ce goût de noisette très prononcé. Et donc, en fait, c'est magnifique.
Et on va montrer que, dans votre recette... Eh ben, ce légume, ça mâche, avec une recette qui circule dans les travées. On l'a d'ailleurs à nos côtés. De quoi s'agit-il? Peut-être qu'on va demander la réaction à celle ou celui qui l'a goûté. Vous vous appelez comment?
Je m'appelle Anouk.
Bonjour Anouk.
Bonjour.
Vous avez donc goûté ce qui pourrait ressembler à... Comment vous définiriez ce qu'il y a dans l'assiette?
Donc un flan de mâche avec par-dessus du chou kale, j'imagine.
Et pas mal.
Et donc, je sais pas, un fond ou je sais pas, avec des notes un peu asiatiques. Donc je trouve que la texture elle est très crémeuse, mmh. Et en fait la mâche c'est très subtil, mais c'est frais, ça fait comment dire, il y a des notes d'amertume, c'est très intéressant.
Bravo Anouk.
Et ça se marie bien avec tout le reste au niveau de la mâche, etc. Il y a des mélanges de textures, c'est plutôt très intéressant.
Ouais, ouais.
Merci.
Carrément, et je crois même qu'on va aller jusqu'à obtenir la recette de ce flan de mâche. En voilà une très belle idée, Sarah Mengi.
Flan de mâche, effectivement, dans lequel on a rajouté également de l'algue, algue douce, qui vient de la ferme marine au Croisic.
Vous voulez parler de Jean-Marie Pédron?
Exactement.
Et sa femme?
C'est ça. Et en fait, l'algue douce a le même goût noiseté que la mâche. C'est vraiment deux éléments qui vont se joindre, qui vont se ressembler. Sauf que finalement, l'algue va ramener un goût un peu iodé. Et puis on a accompagné ça effectivement avec un bouillon. Le bouillon, note asiatique, effectivement, c'était de l'ail noir. Et en fait, il a été fait avec... c'est un peu un bouillon fourre-tout, comme on aime bien dire, dans lequel on peut mettre... Nous, on met nos restes de pain. Donc on les fait griller, notamment les pains rugbrot ou des gros pains noirs. Ça donne beaucoup plus de corps et de texture. Donc ça ressemble presque à un jus de viande, alors qu'en fait, c'est le pain qui a donné du coup cette texture-là.
Et vous travaillez pas mal d'autres pépites maraîchères d'Alice Ménard.
C'est mon unique fournisseur, je dirais. Donc oui.
Et je crois qu'Alice Ménard est la dealeuse en bons produits de toute la scène culinaire nantaise. Racontez-nous un peu votre carnet de commandes.
Beaucoup. Enfin beaucoup. Aujourd'hui, on travaille avec une douzaine de clients qui sont tous à peu près connus et reconnus sur la scène nantaise. Donc pour pas les citer, entre autres, la maison Arlo Cheng, Lucie Berthé-Jembara de Sepia, la Mandale juste à côté d'ici, Guayenne, une petite liste de gens avec qui je collabore depuis quelques temps maintenant et avec qui ça se passe super bien.
Du quasi exclusivement local, vous faites une petite exception pour quelques adresses très engagées dans la capitale.
Oui, très récemment, ça fait quelques semaines que j'ai commencé à travailler avec les Résistants à Paris, que j'ai pas encore eu la chance de rencontrer chez eux, mais qui m'ont contacté en fait avec une démarche qui moi me semblait primordiale, c'est la valorisation des cultures avec semences paysannes, variétés population, chose qu'aujourd'hui, dont on parle pas encore assez à mon goût. Les gens ont compris l'histoire du bio, c'est bon, mais en fait on peut aller plus loin, et moi je vais plus loin, et c'est super.
Et vous allez même très loin dans l'agriculture, puisque quand je vous ai demandé si vous étiez bio, vous m'avez répondu non, je pense l'être plus.
Oui. Donc c'est ça, aujourd'hui moi je ne suis pas labellisée, pas par complexité mais par choix, parce qu'à mes yeux le label AB qu'on connaît tous aujourd'hui est plus assez dur, plus assez drastique.
Plus et assez strict.
Voilà, et je n'ai pas envie de me retrouver là-dedans alors que bientôt je pense la plupart de mes voisins et collègues pourraient l'être. Donc je vise des choses plus strictes.
On peut avoir du bio intensif labellisé AB.
On est d'accord. Mais pour une reconnaissance officielle, entre guillemets, de votre travail, notamment auprès de vos consommateurs, vous tourneriez vers quel label, vers quel signe officiel de qualité?
Aujourd'hui, je réfléchis sur Nature et Progrès. On a entamé les démarches et c'est un système complètement différent que le AB. Et c'est très, très intéressant. Je vous invite tous à vous documenter dessus, d'ailleurs. Voilà.
Vous pratiquez ce que l'on appelle une culture bio diversifiée.
C'est ça. Donc en fait, l'idée, c'est une multitude de légumes. Pour répondre à une demande, on a commencé en fait à l'installation en créant une AMAP sur la commune, parce qu'il n'y en avait pas. Et donc le système AMAP, abonnement, panier régulier, hebdomadaire. Et donc pour ça, minimum entre 6 et 8 légumes différents récoltés chaque semaine.
Avec une interaction entre les variétés, les espèces.
C'est ça. Et donc pour changer un peu du classique panier choux, patates, poireaux en hiver, travailler sur le variétal pour avoir des choses un peu plus funky qui changent et qui incitent un peu les gens à cuisiner, quoi. Renouveler leurs habitudes et voir ce qui peut se faire.
Et tout cela en semences paysannes.
C'est ça.
Sans aucun intrant, même les intrants autorisés dans justement l'agriculture biologique.
Aucun purin, aucun apport qui pourrait perturber l'équilibre qu'on est en train d'essayer de construire sur cet endroit-là. Et aucune mécanisation non plus.
Très bien. L'écosystème alimentaire et culinaire de Nantes. Vous pouvez l'applaudir. Et rendons juste un tout petit hommage quand même au maraîcher très important, une figure locale du maraîchage qui vous a formé, Alice Ménard.
Bien sûr, Olivier Durand. Olivier Durand que je salue, qui fait partie intégrante de mon travail aujourd'hui. C'est lui qui m'a tout appris. Entre autres, la notion de collectif qui est très importante aussi dans nos métiers paysans. Il a eu une démarche de formation auprès de moi qui a été pour le coup très pertinente et je me verrais pas là où je suis aujourd'hui sans lui.
Très bien, c'est dit. Il y a à Nantes une profusion d'initiatives solidaires et citoyennes. On parlait de la MAP que vous avez justement créée à Saint-Julien de Concelle. Mm-hmm. Et nous allons parler d'autres initiatives avec Elvira Masson.
On va déguster. Sur France Inter.
J'ai faim, donnez-moi une galette. Évidemment.
Il ne sera pas question de galette au beurre.
Pas vraiment, non. Mais c'est vrai que Nantes, c'est vraiment un écosystème où tout converge. D'abord, c'est une scène culinaire où l'on compte plusieurs femmes vraiment géniales. Je pense qu'on en a la preuve ce matin. Il y a vous deux, bien sûr. Mais je pense également à la chef que vous venez de citer, Alice, très engagée, comme vous. Vous la connaissez également, Sarah. Elle était concurrente à Top Chef. Elle s'appelle Lucie Berthier-Jembara. Elle est nantaise d'origine. Elle a été formée largement sur une autre côte. Elle est partie au Petit Nice de Gérald Passeda et chez Alexandre Mazia à Marseille, où elle a appris à cuisiner ultra localement. Elle a créé le restaurant Sepia et avec son compagnon, elle a repris une ferme, la ferme Saint-Médard. Donc elle travaille toujours avec vous. Oui. Mais son idée, c'est vraiment de pouvoir se fournir elle-même en une production maraîchère hyper vertueuse. Et son restaurant, on ira la prochaine fois qu'on viendra à Nantes.
François Régis. Ça ne va pas tarder.
et Quéturène. Et je pense que c'est vraiment formidable. Je pense aussi à une autre femme assez géniale qui s'appelle Flore Lelièvre. Je pense que tout le monde la connaît ici. Elle est la fondatrice du Reflet, un restaurant extraordinaire dans tous les sens du terme. D'abord à Nantes, elle s'est installée en 2016, rue des Trois Croissants. Elle a ouvert depuis une deuxième adresse à Paris. Elle a été inspirée par son frère qui est porteur d'une trisomie 21 et elle a fait face au constat que rares sont les entreprises ordinaires, on dirait normales, mais c'est plutôt ordinaire, qui emploient des personnes extraordinaires. Donc elle a imaginé comme projet de fin d'études d'architecture un restaurant qui serait plus qu'un restaurant, mais qui est un lieu de découverte, de partage, à la fois culinaire et humain, à tous les sens du terme. Et l'objectif est double, créer de l'emploi pour les personnes en situation de handicap mental et créer une rencontre entre ces personnes et le reste de la société pour qu'on change de regard et finalement qu'on banalise la différence et qu'on trouve simplement que la différence est une richesse. Ça fonctionne super bien au point qu'elle a ouvert la voie. Vous avez peut-être croisé une autre enseigne qui a repris un peu le même principe de fonctionnement. Ça s'appelle Joyeux. C'est le nom de ces restaurants, cafés-restaurants que l'on croise non pas à Nantes mais à Rennes, à Bordeaux, à Lyon, à Tours, à Paris. La preuve que ces initiatives-là, quand elles sont bien menées avec toute la sincérité qu'a eu Flore Lelièvre, bah, ça fait des, ça essaime partout. Alors, on reste du côté des restaurateurs avec une association qui a fait un travail formidable, qui s'appelle le Kiosque Paysan et qui fait par le biais d'une plateforme de mutualisation des achats le lien entre les paysans bio en circuit court dans un rayon de 100 km autour de la ville et les acteurs des métiers de bouche de la région, du territoire. Le but, évidemment, c'est de réduire l'impact environnemental, c'est de donner accès à des produits, enfin, à des super produits, et garantir un juste prix. Ils fournissent notamment, parce qu'on y est passé hier, la maison Arlo Cheng. Mm-hmm. Vous avez bossé avec eux aussi ?
Oui, oui, on a le pain de la maison Arlo Cheng tous les jours, tous les matins livré à vacarme.
Et le kiosque paysan, vous les connaissez aussi ?
Oui, bah, c'est Laurence qui a mis ça en place, si oui. Je ne me trompe pas.
Richard ? Oui, c'est l'équipe de la Grande Barge également. Voilà, effectivement, c'est une bonne initiative. On voyait qu'il y avait une forte demande des restaurateurs pour ces produits paysans. Et de l'autre côté, une envie de travailler, mais des problématiques logistiques. Et c'est un peu ce principe du kiosque paysan de trouver des solutions.
Ouais, c'est assez épatant. Et Nantes, c'est aussi la solidarité. Là, il y a plusieurs endroits, mais vraiment, la ville est très, très, très riche d'initiatives et de projets solidaires. Je pense notamment à la Cocotte solidaire, qui est un lieu sur l'île de Versailles. C'est une cantine participative très joyeuse. Il y a aussi un lieu que je suis allée voir hier, qui est génial, qui s'appelle le Watini, qui se qualifie de bouillon social et coopératif. C'est un ancien garage reconverti en lieu de vie, café, atelier, réparation de vélos. C'était bourré de famille hier. Ce week-end s'y tient d'ailleurs un marché de Noël, le marché Givré, où on va pouvoir goûter de la street food du monde entier. Ils travaillent notamment avec un potager bio qui est dans la campagne nantaise, qui fournit le restaurant au déjeuner, qui mitonne une petite cuisine super simple, accessible, délicieuse. Et depuis quelques semaines, ils font également un marché paysan le mercredi après-midi. Et puis depuis quelques semaines, ils ont installé des cuisiniers de différentes nationalités qui sont accompagnés par l'association Singa, qui est formidable. Et on mange, bon, c'est génial, on mange des samoussas de Djibouti, on mange des empanadas chiliens, enfin, c'est assez, enfin, ça foisonne quoi. Et Nantes, c'est enfin aussi ça, c'est une grande ouverture d'esprit aux cultures culinaires, aux cuisines du monde entier. Je suis passée hier au Magma Food Hall, un food court où on peut manger afghan, syrien, des pizzas méditerranéens, c'est assez épatant. On m'a dit aussi beaucoup de bien de Fruta, un restaurant éthiopien délicieux.
Non, je t'ai plus.
Et j'ai vu passer un triporteur chargé de spécialités serbes.
Génial.
Cœur de miel. Donc Nantes, c'est aussi ça, c'est Nantes-Villemonde.
Nantes-Villemonde, en même temps, la mer n'est pas très loin. Bravo, bravo Elgar. Sacré panorama. Vous confirmez, Richard Bosset, cette énergie solidaire et citoyenne dans le milieu de l'alimentation et de la gastronomie ?
Oui, bien sûr. Et ça rejoint l'histoire portuaire de Nantes. On y reviendra sûrement sur quelques recettes. Voilà, c'est vrai qu'il y a une tradition à Nantes d'accueillir et de voilà d'intégrer aussi, de profiter aussi des talents, des saveurs qui viennent jusqu'à nous. Et effectivement, c'est constitutif, je pense, de l'identité nantaise.
On pioche à nouveau dans votre panier gourmand pour évoquer deux produits qui ont pour point commun d'être issus de deux vaches anciennes, deux races bovines locales qui reprennent du poil de la bête, hein, c'est le cas de le dire. On commence avec une spécialité laitière.
Très bien, on va commencer donc avec le gouel. Donc ce gros lait issu de... C'est une tradition bretonne, notamment du lait de Bretonne pinoir, mais qui peut maintenant intégrer et froment du Léon et vache nantaise. Voilà, ce gouel, c'est aussi pour montrer qu'à Nantes, il y a aussi une tradition laitière et porté là aussi par des producteurs vraiment d'excellence, très engagés, qui produisent voilà ce Gouel qui est quelque chose d'assez exceptionnel qu'on trouve nulle part ailleurs, je pense.
Et si vous appelez ça yaourt, il y a Cédric Briand là qui vient vous mettre une petite taloche. C'est pas un yaourt, c'est un gros lait. Les ferments ne sont pas les mêmes. Ça donne une spécialité légère, mais ça se mange effectivement comme un yaourt. Citons également aussi Nicolas Guérin. Ce sont les deux producteurs de Loire-Atlantique engagés dans le Gouel. On y croit beaucoup, à tel point d'ailleurs qu'ils sont engagés aussi dans une démarche d'appellation d'origine protégée. Ils ont monté le dossier. C'est une démarche paysanne, fermière. Tous les Gouels également sont bio. Enfin, vraiment, c'est un produit admirable.
Oui, c'est vraiment extraordinaire. Et en plus de ça, ils ont découvert que c'était aussi un ferment lactique qui a permis de voilà de créer aussi toute une gamme de fromages. On n'est pas connu particulièrement pour nos fromages à Nantes, mais comme vous le voyez, on est en pleine évolution, en pleine réflexion, en pleine révolution. Et effectivement, on a ce joli petit plateau de fromage qui arrive avec que du lait de Bretonne Pinoire qui vient de chez Nicolas Guérin. Et qui est travaillé effectivement sous différentes formes, à la fois le linen gouel et puis merci Elvira, le linen gouel,
bravo,
merci,
et le
vacheron.
Alors moi je suis étonné par ce fromage, Dominique.
Bon.
Vacheron, attention. Ouais.
Hein. Oui, pardon. Ça rime avec reblochon un peu.
Non. Et ben vous, il croit pas si bien dire. Non, il a juste là.
Ouais.
Ce n'est pas du reblochon. Hein.
Oui, mais vous profitez que j'ai la bouche pleine pour m'interroger.
Non, mais on est sur une pâte molle à croûte lavée. On est un peu entre le vacherin et le reblochon. Vacheron et en même temps vacherin, ça veut dire petit fromage. Voilà. C'est une invention exceptionnelle de Nicolas Guérin qui est donc produit avec les ferments.
Exactement, les ferments du Gouel.
Bravo.
Et le lait, évidemment, de ses pinoirs.
Un tout petit mot également sur un éclairage sur un produit carnet. Alors là, c'est incroyable, on se croirait carrément de l'autre côté de l'Atlantique avec ce qui ressemble quand même à un pastrami. Hein.
C'est un pastrami, mais un pastrami... il est bon.
Il va arriver jusqu'à vous, Dominique. Ouais.
Donc c'est un pastrami, mais de vache nantaise. On ne sait pas forcément qu'il y a aussi cette race rustique mixte, à la fois lait et viande. Donc ça, c'est un pastrami qui a été réalisé par le Marché Noir. Donc c'est... un duo, là aussi, un nouveau duo nantais qui s'est installé il y a quelques années, qui utilise un fumoir texan et qui valorise notamment beaucoup de races locales comme ça, que ce soit en poule porc, en pastrami et autres produits vraiment exceptionnels.
Nous avions fait en 2018 une émission à la fête de la vache nantaise, fondée par Laurent Chalet, qu'on salue, paysan éleveur qui a activement contribué au sauvetage de cette vache nantaise. On était à Plessé pour cette émission. On attend avec impatience la prochaine édition de la vache nantaise. Dans un instant, on va parler beurre blanc, évidemment, muscadet, nocturne de Noël à Talensac. Juste après, attention, un titre du cru, on l'adore dans l'émission depuis le premier jour en 2010. Là, c'était l'occasion de passer une chanson de lui, évidemment. Le 22 Bar de Dominique A et Françoise Breut.
Au 22 Bar, on dansait. C'était plutôt inhabituel. Alors bien sûr j'en profitais. De bras en bras les gens passaient. Ça n'était qu'un temps court pour se relancer et puis se remettre à danser. Parfois j'entendais quelqu'un m'appeler. Personne quand je me au 22 Bar ce soir-là, on dansait. Je ne sais plus pourquoi c'était, non, pas plus que les gens qui dansaient. Si par hasard ils s'arrêtaient et ils sentaient de vieux décors se balancer, plusieurs fois manquer de tomber. Et du coup, de bras en bras, ils repassait. Alors on se laissait aller au 22 tout bas ce soir-là. Parfois j'entendais quelqu'un m'appeler. Personne quand je me chaque fois que je le voyais, je l'appelais puis me cachais. Après tout ce qu'il m'avait fait, j'attendais le bon moment pour l'aborder et sentir son sang se glacer.
On va déguster en direct et en public de Nantes. Nantes, ah ouais, il y a de l'ambiance dans la salle Paul Fort, pleine à craquer. Merci beaucoup d'être là, Nantaises et Nantaises. On est très 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 émus par votre accueil, très chaleureux. Nantes, où se déroule en ce moment le voyage à Nantes. Non, non, on s'est pas trompé de saison. Il y a bel et bien depuis cette année une version hivernale. Un petit mot alors, la programmation culturelle, évidemment ce sont des artistes propulsés sur le devant de la scène, on a vu notamment hier en se baladant dans le centre-ville ces incroyables illuminations signées Vincent Olinet. Parlons un peu cuisine car il y a des propositions intéressantes, ça a commencé notamment hier juste à côté de la salle Paul Fort à Talensac.
Oui, avec cette nocturne qu'on a lancée cette année aussi, hein, les événements du voyage à Nantes sont souvent associés à des programmations culinaires et donc effectivement on avait lancé cet été à l'ouverture une nocturne à Talensac et on a décidé là aussi d'en faire une version hivernale. Et donc, de 18h à 22h, tous les stands étaient ouverts avec des petites assiettes dégustation à 5€. Et là encore, malgré le froid, on savait pas trop ce que ça allait donner. Mais on a eu entre 3 et 4 000 personnes qui sont venues festoyer sous les halles de Talensac.
Ils sont chauds, les Nantais, hein ?
Oui.
On se croirait à Paris ? Non. Oh. Je plaisante. Oh là là ! C'était la petite blague du Parisien d'adoption de passage, Parisien qui ne se considère pas du tout comme un Parisien, d'ailleurs je ne le suis pas. Il y a évidemment aussi une très belle recette, une recette emblématique qui réchauffe les cœurs et les estomacs. Mmh. Évidemment, on ne peut pas parler de Nantes sans évoquer un certain beurre, une émulsion.
Voilà, le fameux beurre blanc, et c'est vrai que dans le cadre du voyage en hiver, ça m'a permis de proposer ce qu'on a appelé un calendrier de l'Avent, beurre blanc mon amour.
Belle idée.
Voilà, et donc chaque jour, depuis le 1er décembre, on dévoile une nouvelle recette, une nouvelle variation du beurre blanc qui a été imaginé donc par 24 chefs de Nantes, issus évidemment de la sélection d'étapes de Nantes.
Et preuve que le beurre blanc, sans jeu de mots, est une page blanche qui laisse s'exprimer la créativité des chefs. Puisque c'est réinterprété de 24 façons, c'est le calendrier de l'Avent quand même, Sarah Menghi. Votre beurre blanc circule pour accompagner un poisson dans nos assiettes. Ça circule d'ailleurs auprès de vous aussi, hein, cher public. Racontez-nous votre version du beurre blanc.
Alors, on avait...
Partant peut-être déjà de la recette originelle. Oui.
Donc beurre blanc, c'est simplement une réduction donc de vin blanc, muscadet bien sûr, vinaigre, échalote, monté au beurre. Donc finalement quelque chose d'assez simple et rudimentaire. Donc en fait on peut en faire un peu tout ce qu'on veut. Nous on a décidé ici de rajouter en fait tout simplement des graines de noisettes et sarrasin torréfié, histoire vraiment de donner vraiment ce côté un peu torréfié au beurre blanc. Mais en fait on peut vraiment en faire tout ce qu'on veut.
Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ça reste pour autant un vrai velours. C'est-à-dire que là vous évoquez des oléagineux mais qui ne se voient pas dans ce beurre parce que vous filtrez votre beurre blanc. On a toujours cette sensation d'émulsion chaude.
Oui complètement, en fait c'est juste une infusion de graines dans notre mélange de vin blanc et vinaigre.
Alors on en pense quoi là autour de ce plateau ?
C'est un caractère sésame. Ouais, c'est bon. J'ai bien fait de ne pas l'ouvrir avant.
Mais non mais on est dans le registre noisté. Hein.
Oui complètement.
Nous, on l'a goûté hier soir. Quel régal, vous l'accompagnez d'ailleurs d'un
lapin.
Oui c'est ça.
Parce que finalement le beurre blanc se marie assez bien aussi avec les viandes maigres. On le voit traditionnellement avec du poisson, mais ça marche tout aussi bien avec le lapin qu'avec par exemple du veau.
Et là en l'occurrence on a un poisson très local.
Oui, un mulet blanc qui vient de la Turballe, donc juste à côté d'ici. Le mulet, c'est un poisson qui est quand même qu'on peut trouver partout, qui est pas très cher, 5,90 € le kilo, il faut le dire, parce que en ce moment le poisson ça coûte très très cher. Et donc c'est important de pouvoir mettre en avant des poissons populaires.
Alors Alice Ménard, beurre blanc, beurre nantais, tout ça a été inventé juste à côté de chez vous. On parle de Saint-Julien de Concelles.
C'est ça. Dans une femme d'il y a à peu près 80 ans, j'ai l'impression, je ne sais plus.
1890,
ou beaucoup plus longtemps.
Selon nos informations.
Clémence Lefebvre, qui avait son restaurant sur la levée de la Divatte, donc la digue qui sépare la Loire de la vallée maraîchère. Et donc la tradition du beurre blanc est née à Saint-Julien. Moi, toute ma famille a toujours cuisiné du beurre blanc. Ma maman fait, à mes yeux, le meilleur beurre blanc. Désolée, Sarah. aujourd'hui, un jeune chef a repris le restaurant traditionnel et continue à perpétuer la tradition du beurre blanc.
Et, l'auberge où Clémence Lefebvre œuvrait, elle était cuisinière du marquis de Goulaine, paraît-il. Elle a inventé le beurre blanc pour les mariés avec des poissons de la Loire. Il y a toujours ce restaurant qui existe avec un jeune chef que vous fournissiez en légumes.
C'est ça, Mathieu Roux, qui travaille toujours d'une manière traditionnelle et qui a fait du beurre blanc un peu l'assiette star de son menu, qui travaille très bien avec plein de super belles techniques.
Il y a une querelle depuis plus d'un siècle. Richard Bosset, la différence entre beurre blanc, beurre nantais, j'ai moi-même investigué auprès de Éric Trochon par exemple, spécialiste des sauces à Paris, meilleur ouvrier de France, qui m'a dit un truc, d'autres, quelle est l'hypothèse la plus vraisemblable?
Alors la base déjà c'est de filtrer les échalotes.
Donc du coup ça donne le beurre nantais?
Ça donne le beurre nantais.
Un beurre nantais et donc un beurre blanc dont on filtre les échalotes?
Voilà.
Alice dit non, hein. Ah, bon. Je suis pas d'accord.
Oui, ça va commencer. Malheureusement on n'a pas une heure pour débattre.
Voilà. Et après, selon les versions, c'est aussi le vin blanc qu'on utilise, c'est le muscadet. Ou alors, on rajoute aussi une petite touche de crème fraîche, ce que j'ai pu entendre aussi, pour stabiliser un peu la
Ce qui permettrait de transformer le beurre blanc en beurre nantais.
Voilà.
Ouh là là, vous voyez, personne n'est d'accord.
C'est un peu triché, on est d'accord.
Officiellement, et si vous référez d'ailleurs aux livres qui font autorité sur les sauces du répertoire français, on me dit qu'un beurre nantais, c'est tout simplement un beurre blanc qui n'accepte dans sa composition que du...
De toute façon, toutes les recettes officielles, il y a la crème fraîche normande dedans, que donc ça cuise tous
d'accord,
les recours.
Okay. Il vient mettre sa crème dans l'histoire, lui. Non, que du muscadet, a priori, dans le beurre nantais.
Bien sûr.
Alors que le beurre blanc pourrait autoriser la présence d'un petit Riesling ou d'un Chablis.
Quelle idée.
Oula. Du vin dans le beurre blanc et du vin dans nos verres, avec Dominique Hutin.
On va déguster. C'est tout sympa.
Là, tu vas le goûter. C'est un pote qui me l'envoie de Nantes.
Tu vas le goûter, c'est un pote qui me l'envoie de Nantes. On a reconnu la voix ou pas?
Jean Gabin, non, quelque
Bravo.
Chose comme ça.
Quel film?
Touche pas au Grisby.
Ouh, il y a du lourd, bravo.
Voilà, un point. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas beaucoup de mérite avant de venir ici. Moi, j'ai le travail chevillé au corps, donc je me suis un peu documenté. Est-ce que vous savez, François Régis, comment on appelle les habitants de Nantes?
J'ai ma petite idée. Les Nantais?
Bien, vous saviez en fait?
Ouais.
Ah ok. Alors ça, j'ai continué. Figurez-vous que la femelle du Nantais, c'est la Nantaise. Vous saviez ça? Non mais c'est.
Oh bah, ça commence bien.
Je me suis documenté. J'habite moi aussi les territoires. J'ai l'électricité. J'ai internet. Je me documente. Voilà. Du coup, j'ai poussé un petit peu plus loin. Et les investigations. Vous connaissez ma soif, enfin de savoir en tout cas. Et en tant que chroniqueur vin, je me suis renseigné sur ce que boivent les gens ici. Et j'ai trouvé ce qui semble être une espèce de spécialité un peu locale, basée sur le cépage melon, qui s'appelle le muscadet. Vous connaissez le muscadet? Ça vous dit quelque chose?
Jamais entendu parler, personnellement.
Non, je plaisante, évidemment. J'étais parrain des muscadets Tours il y a 10 ans, c'est vous dire l'attachement que je porte à ce vignoble. Alors du coup, j'ai dégusté un petit peu, j'ai rempli les verres qui sont devant vous. Peut-être que vous pouvez être un peu étonné parce que l'un est un muscadet réglementaire et l'autre est rouge. Voilà, et c'est un peu le cœur du message que j'aimerais porter. Donc j'ai fouillé les caves en journaliste d'investigation et j'ai donc ramené 140 vins. En voici deux. Objectivement, j'aurais pu en amener 20, 30, 40. Objectivement, je le dis avec le plus grand des sérieux. Vraiment, je me suis régalé et j'ai consigné tout ça dans un carnet de vignes que vous allez retrouver sur Internet. Il y a à peu près 120, je crois, sur une dizaine de millésimes. Et on va courir jusqu'en 1999, puisqu'on nous rebat les oreilles, le muscadet, ça ne se garde pas. Bah, preuve contraire sera faite. C'est la famille Gadet qui nous l'a envoyé. Et ça s'est patiné, ça s'est orné d'une espèce de gras. Et on a le droit de penser à des grands vins de Bourgogne. Lorsque ça vieillit, voilà. Donc moi, ce que je vous ai amené, mais alors c'est très arbitraire, j'ai amené le domaine de l'Épinay avec un Clisson 2018, avec des reliefs d'épices tout à fait gourmands. Et puis le rouge, Le rouge, voilà, il vient piquer dans ma cave, François Régis. Voilà. Le rouge, c'est un peu la valeur d'étonnement, c'est un vin de France. Donc la vin de France, c'est un ex-vin de table, c'est la nouvelle appellation un peu plus libre. Évidemment, c'est un ovni, c'est le domaine du fait d'homme, c'est un 2019, la cuvée s'appelle numéro 3, et le cépage, c'est le cépage Caux, que vous connaissez peut-être par ailleurs sous le nom de Malbec à Bordeaux ou d'Auxerrois du côté de Cahors. Voilà, donc c'est vraiment un ovni planté ici. Et c'est une version plutôt soyeuse, assez enlevée, c'est plutôt aérien, c'est élevé en amphore. Donc vous voyez, on est en plein dans la créativité. Les prix s'étalent entre 5,20 € et une trentaine d'euros. Et ce seul spectre large de prix, ça raconte à lui tout seul, en fait, ce que j'avais à cœur de mettre en lumière, c'est-à-dire cette créativité insoupçonnée du vignoble nantais. Ce qui fait qu'en plus du cépage traditionnel du melon de Bourgogne qui fait le muscadet, et ben maintenant vous avez trouvé des Caux, des Gewürztraminers, des Colombards, bref, un imaginaire et peut-être même un imaginaire qui est peut-être même ignoré des Nantais eux-mêmes. Et c'est ça ce qui est un petit peu important, parce que c'est spécialement là le problème du vignoble muscadet. Il est tellement familier, au final. On pense que les choses sont éternellement figées, comme une espèce de représentation un peu rassurante, un peu confortable, alors que non, pas du tout. D'ailleurs, s'agissant du muscadet en lui-même, ben son arbre généalogique est porteur d'une nombreuses ramifications qui sont composées, bon, la plus simple d'abord, ce qu'on appelle le muscadet, ce caractère un petit peu générique, qui est très vaste parce qu'il va s'épancher à l'est jusqu'aux frontières de l'Anjou, avec par exemple les coteaux de la Loire, les muscadets des coteaux de la Loire, les coteaux d'Ansonie. Et puis à l'ouest, on a les muscadets des côtes de Grandlieu, et encore plus à l'ouest, le muscadet va se jeter dans la mer. Et puis, au sud-est de Nantes, ce qui convient peut-être d'appeler un peu le triangle d'or du muscadet, c'est-à-dire le muscadet sévremaine, qui lui-même est hérissé d'une dizaine de crues de crêtes qualitatives. Il y a les clissons, il y a les goulaines, par exemple, qui sont autant de réalités d'expressions géologiques différentes et donc d'expressions de terroir dans le verre totalement différentes. Donc voilà un petit peu ce qui dessine l'incroyable diversité, mais en fait, c'est une famille qui est totalement élargie, parce qu'à l'ombre de ce grand géant qu'est le muscadet, c'est un univers qui est beaucoup plus bigarré, qui s'est développé ces dernières années. Un petit peu, on peut faire un parallèle avec la cuisine nantaise dont vous avez parlé, cette espèce de laboratoire un petit peu effervescent. C'est strictement la même chose. Alors, ils avancent souvent, évidemment, non pas sous le terme de muscadet, parce qu'ils sont, rouges, ils sont roses, ils sont même oranges. Ces vins de macération, ils sont élevés en effort, donc ce sont plutôt des vins de France, ces fameux vins de table, cette espèce de grande famille très, très, très mouvante. Et mais tous ces vins invitent surtout à sortir de l'enfermement de vin nantais égale vin pour les huîtres. Et donc, ça permet de penser une gastronomie différente, en réalité augmentée. Alors, évidemment, on est enthousiaste. On voudrait que tout le monde suive cette veine un peu créative. Le seul problème, c'est que ben, c'est un grand univers. Et quand vous êtes sur des marchés de volume qui se jouent des fois à deux chiffres d'ail à la virgule, et ben, c'est un peu compliqué de sortir de ce champ-là. Et que ben, dans ce cas-là, oui, la qualité en sort rarement victorieuse. Et donc, ce sont quand même les vins d'auteur qui vont tirer tout ce monde-là vers le haut. Un autre marqueur, c'est l'effervescence. Ce week-end, 4 salons du vin sur Nantes. Je ne les énumère pas. Nous n'avons pas le temps, mais vous les trouverez toutes et tous sur, toutes et tous pour un salon. Non, c'est que du masculin. Et donc, vous les trouverez tous sur notre site avec notre carnet de vignes. Et enfin, pour finir, l'hymne officiel du pays nantais que j'ai retrouvé.
Oula.
Vous le connaissez?
Non.
Vous connaissez? Mais si. Alors, je vais demander le concours du public. Vous serez payé en liquide après l'émission, d'accord ? Dans les prisons. Dans les frigos de Nantes, y a pas du muscadet, y a pas du muscadet. Voilà.
Il y a aussi du muscadet chez Vacarme. Un petit mot sur votre compagnon qui a sélectionné de très belles signatures de la région en termes de vin.
Effectivement, du vin nature, du vin en biodynamie à Vacarme. On a un grand choix sélectionné par Damien.
Donc on est en boire atlantique, c'est ça, 44.
Oui, c'est bien ça. On arrive au terme de cette émission. Allez, on cite juste le gâteau nantais d'un très très bon artisan, oui, Richard Bosset.
Le gâteau nantais de Franck Desperrier de la petite boulangerie. Voilà, qui a été...
Bravo. Merci à vous, cher Nantais. Merci, cher public. La semaine prochaine, retour à Paris pour une émission sur Paris. Justement, on dresse le couvert au Bouillon République pour une émission en direct et en public, suivie d'un petit banquet parisien. Pour assister à l'émission, il faut vous inscrire en ligne sur le site de la Maison de la Radio et de la Musique. On va célébrer la sortie notamment d'On va déguster Paris, notre nouveau livre collectif. On vous a mis toutes les informations sur franceinter.fr à la page On va déguster. À dimanche prochain, si vous avez encore faim. Merci Nantes.